Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Bonjour, aujourd'hui dans l'oreille dans le coin, Fred et Hervé vous proposent une interview du docteur Pinello, responsable du centre de vaccination de Crépy-en-Valois.
Alors, début décembre, nous l'avions reçu dans nos studios pour un point sur la situation sanitaire avant les fêtes. En ce début d'année 2022, il revient nous parler de l'évolution de cette crise sanitaire. Bonjour docteur. Et tout d'abord, tous nos voeux pour cette nouvelle année et bonne santé.
Oui, également merci et tous mes voeux à tous les auditeurs. Et on peut le souhaiter une bonne santé 2022 en espérant qu'on se débarrasse définitivement du Covid.
Alors, vous pouvez nous faire un petit état des lieux sur le territoire ?
Alors, énormément de patients positifs. Je crois que c'est national de toute façon. Positifs, symptomatiques, contacts, enfin bref, ça, il y en a vraiment partout. La vaccination, donc on a déjà bien entamé les rappels en troisième dose pour une grande partie des patients. Le centre de vaccination, bon, je pense qu'on va en reparler. Ensuite, quoi vous dire d'autre ? Ben, on est tous fatigués de ce Covid et qu'on voudrait bien se reposer un peu, quoi.
Pour la vaccination, vous avez des nouveaux arrivants pour les premières injections ?
Alors, on a à peu près toujours, en moyenne, sur le centre de vaccination, une dizaine, une quinzaine de nouvelles vaccinations. Ça concerne essentiellement les enfants qui arrivent à l'âge de 12 ans. Et on a, je dirais, un tiers d'eux qui sont des nouveaux patients non vaccinés qui peuvent aller de 18 ans à 80 ans.
Alors, pour parler du centre, là, vous êtes un peu saturé ?
Alors,
ou un peu sur les genoux.
Oui, toutes les équipes sont toujours un peu fatiguées en ce moment. D'autant plus que là, depuis lundi cette semaine, on a ouvert une deuxième salle juste en face, ce qui nous permet de passer grosso modo de 250 vaccinations par jour à 400. On l'a fait volontairement parce que il va y avoir une grosse demande pour les rappels, puisque les passes, on en parlera, mais vont bientôt se terminer pour certains. Et donc, les centres de vaccination rouvrent aussi. Par exemple, on a Villers-Cotterêts qui rouvre la semaine prochaine. Et on a également un centre qui va s'ouvrir à côté de Dammartin, c'est l'Anisac.
Ah, d'accord.
Petit centre, 50 vaccinations par jour, mais bon, c'est tout.
La maison médicale qu'il y a ?
Oui, c'est ça, la maison médicale avec le Tortiébeau.
Mais ça demande plus de personnel disponible ?
Ah oui, bien sûr. Nous, on double notre capacité donc en vaccination. Donc forcément, le personnel, c'est le double. Donc en infirmière, de 2, on passe à 4. Et effectivement, on est quand même ouvert de 9h à 13h et de 13h à 20h tous les jours, 7 jours sur 7. Et donc les équipes se relaient. Et c'est vrai que ça commence à être fatigant. Mais bon, pour l'instant, on y arrive.
On peut parler un peu de l'Omicron par rapport au Delta ?
Alors, l'Omicron, ce qu'on sait, c'est qu'il est très contagieux, ça c'est certain. On le remarque d'ailleurs dans les positivités des patients, dans les familles. Ensuite, sur la gravité de l'infection, il semble qu'on ait beaucoup moins de formes graves que ce qui est prévu. Bon, tout à savoir aussi que les patients sont majoritairement vaccinés. Alors, est-ce que c'est le fait que ce soit l'Omicron qui soit moins de formes graves ou est-ce que c'est grâce à la vaccination ? Je pense que c'est les deux conjugués et effectivement, Omicron semble quand même apporter moins d'hospitalisation.
Oui, je voulais rappeler juste, on devait donner un numéro de téléphone, rappelle-toi au mois de décembre, quand vous avez reçu Dr Pinello. Avez-vous ce numéro de téléphone à nous communiquer ?
Attendez. Alors voilà, le 06 17 72 37 57.
Merci.
Je voudrais qu'on parle un peu du protocole de test, parce que ça paraît un peu compliqué pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir en vous demandant c'est quoi le protocole, comment faut faire, comment agir ?
Alors, les tests pour savoir si on est positif ou pas,
ouais.
C'est ça. Alors, en fait, les protocoles sont un petit peu changeants en fonction si on est vacciné ou pas vacciné, si vous êtes symptomatique, non symptomatique, et si vous êtes contact, et quel type de contact vous êtes. Grosso modo, dès que vous êtes symptomatique, il faut faire un test. Donc, le test, maintenant, c'est antigénique ou PCR. On n'est pas obligé de confirmer un antigénique par un test PCR, alors qu'à un moment donné, c'était quasiment obligatoire, tandis que maintenant, ce n'est plus obligatoire. Je pense que les antigéniques ne sont pas forcément aussi fiables que ce qu'on peut affirmer quand on a des négatifs. Quand c'est positif, c'est fiable. Par contre, en négativité, ce n'est pas forcément fiable. Et ensuite, quand on est simplement en contact, c'est un test quand on sait qu'on est contact, et normalement, un deuxième test après 7 jours.
Mais qu'est-ce que ça veut dire symptomatique ?
Symptomatique, c'est les symptômes, c'est-à-dire bah, la gorge, ma tête, fatiguée, de la fièvre, tous ces symptômes.
Donc il faut aller chez le médecin ?
Pas forcément, non, parce qu'il y a des gens qui supportent très bien ça, ils ont un petit rhume et puis ils vont se faire tester et parfois ils sont positifs.
J'ai une question justement sur les tests abeilles. Ils ont mis un test du dépistage en place et ça se passe en extérieur. Et moi, on m'a dit qu'il fallait une température ambiante pour tester. Est-ce que c'est vrai, docteur, ou pas? Ou est-ce que ces tests-là sont fiables d'être faits en extérieur, puisqu'en ce moment, on a des températures quand même qui sont très basses, quoi?
Alors, je pense que la température extérieure par rapport aux tests, tout dépend où sont stockés vos tests. Si les tests sont stockés dans la pharmacie ou dans la maison de santé, ça pose aucun problème. Par contre, s'ils sont toujours à l'extérieur, oui, ça peut poser un problème.
J'avais une question à la suite de ça aussi. On voit qu'il y a des dentistes, il y a des kinés qui font aussi des centres de tests. Qu'est-ce qu'il faut comme formation? Qu'est-ce qu'il faut comme autorisation? Parce qu'on se demande si c'est autorisé ou pas autorisé. On a vu qu'en France, il y en avait plusieurs milliers qui avaient été fermés.
Alors, il faut quand même être issu d'une profession médicale ou paramédicale, c'est-à-dire médecin, infirmier, kiné, dentiste, effectivement. Par contre, une simple aide-soignante, par exemple, ne peut pas faire des tests. Une personne lambda qui n'a pas de formation paramédicale de santé ne peut pas en faire. C'est pas forcément sans danger, et puis il faut quand même que le test soit bien fait, parce que si vous avez un test qui n'est pas suffisamment enfoncé dans le nez, vous pouvez vous retrouver avec un faux positif, négatif facilement, quoi.
Mais il faut déclarer à l'ARS ou des choses comme ça, comme...
Alors, en fait, techniquement, il faut surtout avoir ce qu'on appelle une CPS, c'est une carte professionnelle de santé, qui permet justement de pouvoir déclarer les tests. Parce qu'une fois que vous avez fait un test, si vous êtes positif, vous allez déclarer sur un site qui s'appelle la CIDEP. Et là, pour déclarer sur ce site, il faut vraiment avoir sa CPS. Tous les professionnels de santé qui ont une CPS peuvent logiquement faire ces tests.
Les tests gratuits ou les tests payants? Moi, je n'arrive pas à comprendre que si on a des symptômes, on va à la pharmacie, le test est gratuit. Et si on n'a pas de symptômes, si on y va pour le travail ou choses comme ça, c'est payant. Comment on peut faire la différence?
Alors, la différence, déjà, c'est sur les vaccinés, non vaccinés. En fait, les personnes qui vont payer leur test, ce sont les personnes qui sont non vaccinées et qui n'ont pas d'ordonnance. Si, par exemple, on a une personne qui n'est pas vaccinée, mais qui est symptomatique, qui a vu son médecin et son médecin lui a fait l'ordonnance, il sera remboursé du test. Par contre, s'il va lui-même se faire tester alors qu'il est symptomatique, sans ordonnance, il ne sera pas remboursé. C'est vraiment les cas non remboursés, ce sont ceux-là, quoi, en fait. Bon, après, les tests de confort pour les non-vaccinés ne seront jamais remboursés. Par contre, pour les gens vaccinés, les tests sont toujours remboursés. On a aussi les personnes qui sont non-vaccinées, qui ont besoin de tests pour aller consulter des médecins à la clinique ou à l'hôpital, ou alors faire un examen radiologique. Ces personnes-là sont remboursées quand il y a une ordonnance.
Ah, donc c'est pas évident, quoi.
Ce qui n'est pas évident, surtout, c'est d'avoir l'ordonnance.
Il y a beaucoup de gens qui veulent se faire dépister maintenant, là, et on voit qu'il y a des files d'attente là, de 4-5 heures, même à Crépy. Il y a des gens qui attendent à la pharmacie 4 heures. Est-ce que ce n'est pas un problème important? Et puis, il y en a d'autres qui disent, bah, c'est en attendant que je me suis fait contaminer.
Effectivement, c'est un problème. D'ailleurs, à ce sujet, il y a la mairie de Crépy, avec l'association Secours 60, M. Hardy Ludovic, qui organise des dépistages à la passerelle. Alors, je n'ai pas les jours de dépistage. Je sais que je lui ai demandé si vous pouvez encore en faire la semaine prochaine et la semaine suivante. Et donc, les personnes peuvent se déplacer aux heures d'ouverture et ils sont dépistés gratuitement également. Ça permet de soulager les pharmacies, ça permet de soulager les laboratoires qui sont quand même bien débordés. Combien de temps encore? Peut-être une quinzaine de jours, le temps que l'Omicron puisse être passé, on l'espère. Après, bon, on ne peut pas filtrer les personnes, leur dire, voilà, vous êtes déjà venu hier, vous ne pouvez pas vous faire dépister aujourd'hui. Je veux dire, de ce côté-là, c'est un peu l'anarchie complète. On y va ou on n'y va pas, on vous prend, voilà quoi.
Donc, en plus de ça, il y a aussi les autotests maintenant. Alors, quelle est la fiabilité d'un autotest?
Enfin, déjà, il faut savoir le faire. Il y a des personnes qui vont dire, moi j'ai fait un autotest et qui n'ont pas suffisamment enfoncé dans le nez, et donc qui l'auront fait, qui auront peut-être un petit peu trop enfoncé dans le nez. Il y a une petite technique à avoir. Après, la fiabilité, si c'est comme les antigéniques, c'est pas du 100%. C'est-à-dire, un autotest ou un antigénique, quand il est positif, on peut dire que c'est fiable. Par contre, un autotest ou un antigénique négatif, c'est pas toujours une fiabilité à 100%.
Le problème aussi, moi, je fais un autotest, je suis positif, je suis pas obligé de me déclarer quand même. Je peux aller travailler, je peux envoyer mes enfants à l'école.
Vous pouvez faire l'autotest le matin en vous levant et ne pas le dire, c'est sûr.
Donc c'est pas une garantie de...
là, je crois que c'est du civisme de chacun, quoi, tout simplement. Ouais.
Il y a à peu près 300 000 ou 400 000 personnes maintenant qui sont testées positives tous les jours. Est-ce qu'on va arriver à une immunité collective ?
Alors, on peut dire que l'Omicron, tout compte fait, nous aide beaucoup dans la vaccination parce que c'est lui qui fait plus de doses que nous actuellement. Parce qu'on considère qu'une infection Covid, c'est comme une injection de rappel. Hein, d'accord ? Donc effectivement, l'Omicron étant très contagieux, contamine beaucoup, on va certainement arriver à une immunité collective très rapidement. Quoi. Et d'ailleurs, dans les chiffres donnés par les spécialistes, on nous dit qu'à peu près 300 000 positifs testés par jour, et la réalité serait plutôt au double, en fait. Hein.
Mais il n'y a pas d'augmentation du nombre de personnes en réanimation, par exemple.
Et non.
Ça reste stable.
Tout à fait, ça reste stable. Et les personnes là qui sont toujours ou qui arrivent encore en réanimation restent des variants Delta, majoritairement, qui sont dans les criblages des PCR, qui représentent maintenant à peu près 10% seulement des tests.
L'avenir, c'est quoi alors ? Le centre de vaccination va continuer jusqu'à quand ?
Alors ça, on ne sait pas trop, parce qu'on pensait déjà arrêter au mois de décembre. Là, on continue. Et on va avoir donc la fin de campagne sur les rappels de vaccins. Et on nous pose la question aussi, c'est pour la vaccination pédiatrique, qui est un petit peu compliquée à mettre en place.
Alors j'ai vu que dans certaines villes, nous autorisaient à enlever les masques. Est-ce que ça va être quelque chose qui va être possible dans d'autres régions ? Avez-vous des infos là-dessus ?
Non, je n'ai pas d'infos, mais bon, ça paraît logique. En fait, les masques en extérieur, sauf quand il y a de la foule, n'a pas montré d'efficacité, en fait. Hein.
Un petit message quand même pour les auditeurs, puisqu'on est en début d'année. Quels sont les souhaits que vous avez à faire, docteur ?
Moi, je souhaite surtout qu'on retrouve, si on peut dire, notre vie d'avant et pouvoir se reposer un petit peu. Surtout pour les problèmes de santé, là, surtout Crépy environ, on a quand même pas mal donné. Et puis, pour tous les auditeurs, je souhaite surtout qu'ils aient retrouvé donc, non seulement une vie normale, mais une vie plus joyeuse et plus gaie que ce qu'on a connu pendant 2 ans. On n'a pas parlé, c'est des passes.
Allons-y.
Parce que ça, c'est un sujet important.
Ça.
Alors, le pass.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà, donc le pass. Là, d'ailleurs, toutes les informations nationales en parlent. À partir de demain, on va avoir à peu près 600 000 personnes sur le plan national où leur pass va être désactivé automatiquement parce qu'ils n'ont pas fait leur injection de rappel dans le délai des 7 mois. Et ensuite, arrivé au 15 février, pour les plus de 18 ans, le délai va passer à 4 mois et non plus 7 mois. D'accord ? Ce qui veut dire que ces personnes-là, si elles ne sont pas vaccinées, elles vont venir faire un rappel, elles auront un nouveau QR code, il leur faudra 7 jours pour que ce QR code soit actif. Okay. Et donc, à part avoir des conséquences allergiques avec le vaccin, il n'y a pas de contre-indication, donc tout le monde va se retrouver, enfin un grand nombre de personnes vont se retrouver sans passe. Donc on s'attend à avoir un afflux de vaccination comme on a eu au 15 décembre avec les personnes de plus de 65 ans.
Donc c'est pour ça que vous avez ouvert une deuxième salle alors que...
C'est pour ça qu'on a ouvert. Donc nous, on a aussi des demandes des ARS qui nous demandent d'ouvrir beaucoup de créneaux. Donc on y participe et je crois que beaucoup de centres en France font la même chose. D'ailleurs, comme je vous expliquais, que des centres fermés réouvrent à nouveau. Quoi.
Et comment l'ARS vous aide pour ça ? Parce que c'est bien beau de dire il faut.
L'ARS, c'est une aide financière essentiellement. Oui, c'est tout, c'est financier. Bon, après, si on ne le faisait pas, elles ne nous auront pas forcément dit quoi que ce soit. Bon, on le fait parce que on sent que c'est aussi un besoin pour la population. Quoi.
Mais il n'y a pas plus de médecins, pas plus d'infirmières. Quoi.
Il n'y a pas plus de médecins, il y a quand même un peu plus d'infirmières qui viennent participer. Mais c'est vrai que sur le plan médical, c'est plus compliqué parce que les cabinets tournent quand même à plein régime aussi actuellement et qu'on est toujours dans la phase critique du manque de médecins sur la région. Quoi.
Merci docteur.
Merci docteur.
Merci à vous.
On va essayer de se revoir le mois prochain peut-être.
Mais bien sûr.
Pour parler de l'évolution.
Avec plaisir.
On prendra une nouvelle consultation avec vous alors.
Voilà. Merci.
Merci à vous.
Merci.
Voilà, c'était Hervé et Frédéric qui étaient sur les ondes de RVM en compagnie du docteur Christophe Pinillo, donc qui est aussi responsable du centre de vaccination de Crépy-en-Valois. Bonne écoute sur RVM 93.7. Au revoir.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
À très vite sur l'antenne d'RVM.